Nous sommes mercredi 12 octobre et nous accueillons cet après-midi autour d'un goûter le conteur François Lavallée. Nous l'écoutons.
Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Oh, oh. Il y a de l'amour pour vous, mesdames. Il y a de l'amour pour vous toujours. Il y a de l'amour. De l'amour pour vous, mesdames, il y a de l'amour pour vous toujours.
Petite présentation par Claire Souris de la médiathèque de Saint-Lô de cet après-midi festive autour du conteur. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors c'est une journée un peu exceptionnelle aujourd'hui. On accueille François Lavallée.
Oui, c'est ça. Figure-toi qu'il nous vient tout droit du Québec.
On a la chance de pouvoir le faire venir dans le cadre d'un festival autour du conteur. Et on a sauté sur cette occasion et il a répondu favorablement à notre invitation. Donc on est ravis. Parce qu'aujourd'hui, il a pu échanger, se faire interviewer par des publics mixés, en fait, des publics différents. On avait des habitants du quartier des Pinferraux. On a évidemment des habitants du quartier ici, des ados du centre où on est là, qui viennent avec les jeunes. Et on avait également un groupe, des improlos ados, qui pratiquent des têtes d'improvisation, des joutes verbales et très ludiques. Et qui ont entre des jeunes entre 15 et 18 ans et qui vont d'ailleurs juste après, là, après le goûter, nous proposer une démonstration.
3, 2, 1, impro.
Et qui anime les impro locaux en fait?
Tu pourras peut-être aller voir, c'est Vincent Posé qui est le coach des impro locaux et qui va proposer des ateliers à ne pas rater à la Toussaint.
Alors on peut peut-être rappeler les dates des ateliers.
Il y a le mardi 25 octobre et le jeudi 27 octobre, le matin. Et ça va se passer au centre Mandela de 10h15 à 11h45.
Dans l'espace jeune.
Et les jeunes pourront, n'importe qui pourra venir gratuitement, sans forcément s'inscrire, venir s'essayer en fait au théâtre d'impro. Ça va être très drôle. Il faut venir avec sa bonne humeur et surtout ne pas être décomplexé parce que ça va être très sympa, très convivial. Et donc François Lavallée, pour revenir à lui, parce que c'était quand même le sujet important du jour, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Qui a promené ses souliers un peu partout dans le monde et qui réussit à ses souliers d'embarquer en fait dans les histoires qu'il raconte avec cet accent, cette personnalité, cette émotion dans la voix. C'est quelqu'un de vraiment fabuleux.
Alors, donc, du coup, cet après-midi, nous présente le spectacle qui s'appelle Les Autres. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ou pas nous en parler un petit peu?
C'est vrai que Les Autres, ça parle d'abord de ses souvenirs, c'est ses souvenirs en fait d'enfance et d'adolescence qui remontent. Ça se passe dans la banlieue de Montréal. Et en fait, il se replonge dans ses souvenirs et il se rappelle de ce garçon Martin, qui était un enfant un peu différent. Alors je ne sais pas pour toi, j'attends avec impatience ce spectacle pour mieux comprendre. Mais je crois comprendre que ce Martin est un enfant différent et a des difficultés à se faire accepter par les autres. Donc c'est l'éternel problème de cette jeunesse où on se cherche un peu, où on est vite intimidé par les groupes, les bandes se forment, on n'est pas toujours facilement intégré. Voilà, c'est tous ces moments-là qui sont vraiment fabuleusement décrits dans son histoire. Et voilà, il va nous embarquer là-dedans et je pense que ça va être un super moment.
Ce qu'on peut dire pour ce Corée, vraiment loupé celui-là, c'est que tous les ans, donc il y a le festival qui
Histoire
s'appelle.
Dans des coussins.
On va alors s'approcher de Muriel. Alors on va s'approcher de Muriel. Muriel, nous sommes sur la radio MD, la radio de la Dolée et de Mercier. Et je voulais un petit peu que tu nous dises en quoi consiste le petit festival de
Oui,
Comte.
D'accord. Enfin, le festival.
On n'est pas si petit que ça.
Ça s'appelle Histoire d'en découdre. Donc c'est un festival qui est désigné, qui se déroule tous les ans à la même époque de l'année, au mois d'octobre, donc sur une semaine et demie. Donc ça a commencé mercredi la semaine dernière. Donc on accueille à peu près une dizaine de conteurs, de tous les auteurs français, conteurs québécois. Voilà, et donc dans plusieurs villes du département, donc c'est en partenariat.
Et ça dure jusqu'à?
Donc jusqu'à dimanche prochain, donc ça nous fait le 18, je crois, quelque chose comme ça. Donc avec une date le 18 à médiathèque.
Voilà. Et quand vous construisez ce festival, vous donnez une thématique
Non, il n'y a pas de thématique. Après, c'est une collègue, elle, qui vraiment connaît bien les conteurs, qui va sur les festivals pour voir leur spectacle, et qui après les sollicite pour venir compter dans le département.
Alors, nous, on est super contents de pouvoir participer à ce festival, oui. Parce que, en tant que centre naissonnement, on est là. Comme l'année dernière.
Comme l'an dernier.
On accueille un des conteurs sur notre structure. Comment, par exemple, comment ça s'est fait le choix de François Lavallée?
En fait, déjà, on les sollicite pour leur disponibilité. Lui, en fait, il est disponible parce qu'il est déjà sur le festival des cœurs de revue dans tous les départements, là, qui se déroule actuellement aussi en même temps que notre festival. Et il était aussi en résidence avant sur Rennes. Donc, on a profité de sa venue, en fait, parce qu'on ne fait pas venir exclusivement pour nous.
Oui,
donc,
c'est
voilà,
ça.
Voilà.
Donc on les sollicite, on sait si Québec, c'est
voilà,
un peu loin.
Voilà, donc on l'a sollicité, puis il a accepté. Donc voilà. Donc en fait, on les invite parce que Claire, qui s'occupe de la programmation, connaît le spectacle et c'est ce qu'ils peuvent présenter. Tous les spectacles sont gratuits. Voilà.
Donc c'est offert gracieusement par voilà. le
conseil départemental.
Eh bien, merci beaucoup, Muriel, et à bientôt.
À bientôt.
Pour la saison prochaine.
Voilà, tout à fait.
Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Oh, oh. Il y a de l'amour pour vous, mesdames. Il y a de l'amour pour vous toujours. Il y a de l'amour pour vous, mesdames. Il y a de l'amour. De la toujours.
Nous accueillons cet après-midi autour d'un goûter le conteur François Lavallée. Les adolescents lui ont posé quelques questions et tous ceux qui étaient autour de lui aussi, nous l'écoutons.
Une vraie question autour de l'improvisation théâtrale, puisque ici, en fait, l'improvisation théâtrale a été un peu popularisée par le théâtre au Québec, la Ligue nationale d'improvisation. Donc ça fait 40 ans que ça existe. Ici à Saint-Lô, on a un petit bastion qui fait ça. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez pratiqué l'improvisation théâtrale au Québec? Quelle est la part d'improvisation dans le conte? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans votre pratique?
Ouais, c'est une belle question. Quand j'étais adolescent, moi j'ai commencé à l'impro. Il y avait une ligue d'impro à mon école secondaire. Ici, il n'y a pas l'école secondaire, on ne dit pas ça. C'est à peu près entre 12, puis...
Secondaire, c'est l'équivalent un peu de notre lycée à nous.
Oui, c'est le collège qu'on dit.
Collège, oui.
Ça dure 5 ans, nous autres. Mon garçon, le plus vieux, là, il est en 5e secondaire. Il va avoir 17 ans.
Oui, donc c'est lycée plutôt. C'est lycée, hein. Ouais.
Il passe à autre chose. Puis dans ces 5 années-là, moi, j'ai fait de l'impro à l'école. C'est comme ça que ça a commencé. Vraiment, ma première incursion sur une scène, là. Ça a été par l'improvisation. C'était une ligue assez bien organisée, puis on faisait des tournois dans la région et au travers le Québec. Puis la part d'impro dans mon travail est importante, surtout dans le travail d'orature qui se passe dans les premiers temps où je raconte des histoires. Souvent, je travaille par scénario, par canevas, comme un scénariste de film. J'écris mon histoire, puis après, sans l'écrire, puis apprendre les mots par cœur, je me lance devant le public une fois. 2, 3, 4, 5, 10, 15. Puis à un moment donné, les mots viennent à se placer et l'histoire se précise, se densifie, puis il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça se passe en impro au début avec les mots, mais sur un scénario. Comme je faisais un caucus d'impro, mais plus long que 30 secondes, puis que je prenais le temps de donner les grands traits. C'est sûr qu'après, dans la performance, ça se peut qu'on ouvre... Tu sais, quand tu racontes ton histoire 1000 fois, tu as une fichue de belle liberté aussi. Parce que tu es même plus concentré sur tes images, puis sur les mots, ils sortent tout seuls. Moi, j'ai des histoires que je ne raconte pas pendant 3-4 ans, puis je peux les raconter comme ça. Elles reviennent, puis c'est au mot près, à virgule, au geste même. Ça, c'est demain soir, c'est des histoires comme ça que je vais raconter. Dans le spectacle Le Retour du propriétaire, ça fait peut-être 1500, 2000 fois que je raconte certaines histoires. Là, je peux m'asseoir, puis m'en ai arrêté, aller aux toilettes, aller me prendre une bière, puis revenir après. Puis continuer mon histoire comme si de rien n'était, puis je vais rentrer dans l'émotion tout de suite. Puis là, ça permet d'ouvrir des parts d'impro qui peuvent être assez délirantes des fois, quand le contexte le permet, là. Puis d'interagir avec le public tout le temps. Parce que c'est vrai que l'improvisateur interagit très peu avec le public. Hein. L'improvisateur interagit surtout avec l'autre équipe, avec ses partenaires de jeu, mais le conteur, lui, est en interaction avec le public. Ça se passe comme ça. Avec le public devient joueur aussi.
Mais dans l'impro, le public peut être joueur parce qu'il peut, il me semble, apporter des contraintes ou poser des cadres, faire dévier l'histoire. C'est ça, il me semble aussi, non?
Alors, là, c'est parce qu'on parle du match d'improvisation. Oui. Le match d'improvisation, effectivement. Mais après, il y a d'autres formes d'improvisation qui permettent de s'adapter aux propositions du public. On travaille sur les deux, en fait. On fait du match où on est plus concentré sur ce qui se passe sur la scène et également des formats où on prend de l'information, on s'adapte à ce qui se passe dans la salle aussi, pour rejoindre un peu ce que vous disiez sur le côté, il y a une relation avec le public qui se crée. Donc, c'était aussi le sens de ma question, savoir est-ce qu'à un moment, s'il y a un chat qui passe sur la scène, est-ce que vous l'intégrez dans l'histoire ou est-ce qu'il passe?
Ah, j'ai pas le choix de l'intégrer. Quand il passe, quand il arrive quelque chose, là, j'ai pas le choix de l'intégrer puis de l'amener dans mon histoire parce que c'est l'assemblée puis il y a quelque chose dans... Il y a une adresse qui est frontale et directe avec le public. Des fois, ça m'arrive de jouer un personnage puis là, d'être là et de jouer le personnage qui débarque puis avec les cornes de même qui vient. Et là, pendant ce temps-là, ça se peut que mon personnage y réagisse avec le public, mais je suis surtout en train de jouer. Puis après, je reviens puis là, c'est le narrateur, c'est François puis l'action. S'en va. Puis des fois, même le conteur, il sort un peu, puis il se fait une propre remarque à lui-même sur son histoire ou sur l'histoire qu'il est en train de raconter. Puis il s'adresse au public, puis il dit « Ah ouais, vous l'avez vu, ce personnage-là? » Fait qu'il y a trois modes pour moi. Il y a le narrateur, il y a les comédiens, puis à un moment donné, c'est le regard sur sa propre histoire, le conteur. Mais quand je faisais de l'impro secondaire, on ne pouvait pas parler au public. Je pense qu'on avait une punition au cabotinage où rapidement, l'arbitre... Là, il y a des nouvelles règles qui ont été ajoutées sur...
C'est un autre type de format. C'est un autre type de spectacle. Le match, on reste comme ça.
Puis il faut faire comme si le public, on ne peut pas s'adresser ou ça devient du décrochage. Ça se passe sur la patinoire. Ça.
Exactement.
Au hockey aussi, on ne peut pas s'adresser au public. Un joueur de hockey qui décide d'aller puncher un spectateur, on a déjà vu ça, puis non, ça ne marche pas. C'est à glace, on a le droit de se frapper, mais pas le problème. C'est un des seuls sports au monde où il y a toute cette violence-là. Quand même.
En tant que conteur, si vous comptez toujours dans un espace fermé, ou si des fois vous allez vers l'extérieur, parce que je sais qu'ici, j'ai déjà vécu des conteurs qui vont sur les bords de Vire, par exemple, et lors d'une promenade, ils comptent une histoire avec un public qui se déplace avec lui. J'aimerais savoir si vous restez fermé dans un lieu ou si vous allez dans le côté nature compter.
Ah ouais, ça m'arrive souvent aussi de faire ça.
Vu les grandes étendues que vous avez, ouais. Autant en profiter, quoi.
C'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais quand raconter, ça devient une façon d'être dans le monde puis une façon de dire les choses. Après, j'ai travaillé avec des petits-enfants dans un CPE, un centre de la petite enfance au Québec. Puis je racontais. Mais dans ma façon d'être, je racontais de toute façon. Ça se place dans la vie, fait que ça se transporte avec soi. Fait qu'après, raconter dans un autre lieu, c'est de s'adapter et de traîner ça aussi avec soi, cette parole-là, cette façon d'être dans le monde. Fait que raconter dehors, en dedans, dans une salle, moi, ça me fait plaisir parce que ça me confronte tout le temps à... Il faut que je sois sensible à ce qui est en train de se passer. Que je m'adapte à l'assemblée. L'assemblée est toujours archaïque. On n'est pas dans une salle noire. J'aurais de la misère, je pense, à faire ce métier-là si c'était juste de la salle noire. Juste de la salle de spectacle. J'aime passer de la grande salle au tout petit lieu qui n'a rien à voir, être dans une cafétéria d'école avec un mauvais frigo qui fait bien du bruit en arrière, puis d'être en train de raconter, d'essayer de créer quelque chose, être au bord d'un feu. Là.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire, proposer des contes avec d'autres personnes? À deux, compter à deux, par exemple?
À trois, on a déjà fait un spectacle qui s'appelait « Le cabaret de l'impossible ». J'étais avec un Breton, Achille Grimaud, puis un Réunionnais, Sergio Grondin. Puis on s'est promené pas mal avec ça. On était à cheval entre le conte et le théâtre. On était sur une scène avec une table. Il y avait une scénographie, de l'éclairage. J'étais habillé pour les salles. Puis on était dans des textes, c'était très écrit. Puis c'était pas des contes qu'on racontait. On racontait une aventure autour de la langue française puis de notre rencontre de bonhomme. Puis on s'est promené avec ça. Puis avec Achille, le Breton du groupe, on est en train d'écrire un western comté. Inspiré des western spaghetti italiens. très politique, mais aussi des westerns américains avec tous les plans, puisque de notre imaginaire du western. Puis l'imaginaire du western, de western du québécois puis du breton n'est pas le même. Tantôt, on parlait de la langue française puis de l'accent. Là, quand j'étais jeune à Cinequiz, quand je regardais un western, c'était traduit en français de France. Pour moi, c'était drôle, parce que je voyais dans un décor nord-américain de l'Ouest, dans un imaginaire américain, je voyais des cow-boys qui parlaient avec « Hey, tu me donnes ton flingue ». De même, puis là, je dis « Voyons, tu me donnes ton flingue ». Pour nous autres, on acceptait ça, mais ça, c'était pas de chez nous, ça. Donc, on travaille là-dessus, sur le western. On va même mettre de l'art numérique là-dedans, avec une boîte d'art numérique à Montréal, où il y a des trucs qui vont apparaître, puis on va dialoguer avec tout ça. Pour que ça devienne des bidules, puis d'avoir vraiment une présence avec l'art numérique. Comment ça peut parler aujourd'hui à deux conteurs qui racontent un western sur une scène? Ça, c'est le genre d'expérimentation que j'aime.
Tu aimes l'aventure, en fait, si on comprend bien.
Je pense que j'ai gardé le mon risque. Fond de coureur des bois, là.
Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Une ou deux dernières questions? Oui?
Devenir, on le laisse de côté pour apprendre à choisir un autre.
Ah, c'est donc bien beau ce que tu dis là. Moi, je peux parler juste parce que je connais. Parce que moi, c'est arrivé, je ne m'attendais pas à faire ça. Hein. C'est des gens autour de moi qui disaient ah, tu vas être professeur d'éducation physique. Puis je me suis rendu. Finalement, c'est. Puis j'ai étudié en récréologie, en loisirs. Puis aujourd'hui, je ne fais pas ce travail-là. C'est drôle parce que la question que tu me poses là, je suis en train d'avoir cette discussion-là avec mon grand garçon. Lucas, qui va avoir 17 ans, qui est en train de choisir aussi un chemin d'études. On a cette même réflexion-là. Ouais, ça peut arriver, je pense que. Autour de moi, quand je regarde mes amis, là, il y en a beaucoup qui font des métiers aujourd'hui et qui n'ont pas étudié là-dedans. Mais heureusement qu'ils sont allés à l'école parce qu'ils ont une culture générale et une connaissance des choses. Ils sont capables de parler avec beaucoup de monde, qui est capable de lire le journal le matin et de comprendre ce qu'il est en train de se dire. Mais ils peuvent travailler en construction, puis faire des bâtiments, faire de la peinture. Mais ils ont une tête pour pouvoir se débrouiller après à parler avec plein de monde. Ça, je trouve ça pas mal quand même. C'est pour ça que l'école, c'est assez important. Mais il y a l'école, mais il y a tout ce qui est autour. S'intéresser, la curiosité. Puis oui, des fois, on se retrouve dans des métiers où on ne s'attendait pas à être là. Je parle pour moi, là. C'est mon expérience. Après, tu pourras avoir ces discussions-là. C'est une super belle question que tu as soulevée.
Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, là,
à poser?
Profitez-en, hein. Oui.
Vous avez commencé à conduire à quel âge?
À conduire?
Au Québec, on conduit à partir de quel âge?
Moi, j'ai été tard un peu parce que ça ne m'intéressait pas trop. Ouais. J'ai conduit à 23 ans.
C'est
pas tard. Ouais, mais à 16 ans, on peut conduire.
Ouais,
ouais, mon garçon pourrait conduire. Là. Ici aussi, hein?
C'est 16 ans.
15,
je crois que c'est 15
maintenant. En conduite accompagnée, c'est peut-être 15.
Ah, c'est 15.
Et vous savez comment on dit voiture quand même, c'est intéressant ça, au Québec.
Non.
On n'en a pas parlé ça au moment des séances.
Char.
Oui, c'est char. Ça. Tu peux dire plus fort ?
Un char.
Donc toi, tu as conduit ton premier char.
Mon premier char à 23 ans. Puis je mets aujourd'hui mes valises dans le char.
Grand voyageur, hein, finalement. On n'a pas parlé de tes
une
voyages.
Une valise de char, est-ce que vous connaissez? Vous savez ce que je dis là, quand je vous dis une valise de char?
Une valise de voiture. Je veux dire qu'on met dans la voiture des valises.
Ah, valise. Non, dans valise, nous autres, la valise du char va mettre l'épicerie dans valise du char.
Dans le coffre.
La valise de la voiture.
D'accord.
Va mettre les sacs d'épicerie dans le coffre de la voiture.
Mais on n'a pas parlé de cet aspect-là de ton métier, mais les voyages, ça a l'air d'avoir pris une dimension quand même importante. Et j'imagine aussi, du coup, dans tout ce que ça a pu nourrir dans tes histoires. Donc, le voyage, on parle de bagages, et je pense que dans tes bagages, tu dois porter pas mal aussi de... Tu as parlé des rencontres, de tout cet aspect rencontre, mais il y a aussi peut-être tous les paysages que tu as pu découvrir... partout dans le monde. Tu as rencontré les Inuits, enfin les populations inuites dans le Grand Nord, c'est ça, il me semble?
Oui, plusieurs fois, je suis parti avec un petit avion aller jusqu'à Iwuivik. Quand vous regardez le Québec, là, la carte, ça ressemble à une tête de sais pas s'il y en a qui ont observé un peu. Ça ressemble à une tête de loup ou une tête de chien, le Québec, vous regarderez. Avec l'oreille en haut, puis le fleuve Saint-Laurent, ça devient comme la gueule du loup. Et qui s'en va jusque dans l'Atlantique, dans le Golfe, puis après l'Atlantique. Je suis allé jusqu'à Iwuivik en haut, Salouit, Pouvounitouk, Koudjouak. Puis ça, c'est une autre culture. T'as pas souvent la chance, comme Québécois du Sud, d'aller dans ces contrées-là au Nord. Puis c'est assez fabuleux. C'est des peuples qui parlent pas beaucoup, mais qui communiquent autrement. Ah, c'est des taiseux, mais qui sont dans le rire, dans le... Puis il y a de quoi qui s'organise, qui se dit. Ils sont vraiment dans une autre vision du monde. Puis il faisait moins 60 avec le vent quand je suis allé là-bas. J'avais jamais vu ça, hein? Même moi qui habite à Montréal.
T'avais mis le tuc, là, j'espère.
Ah, double tuc. Puis là-bas, il faut que tu mettes des trucs où il n'y a pas de, quasiment pas de couture parce que le vent entre là-dedans. Fait qu'il faut que ça soit lisse le plus possible. Tu sais, les peaux, c'est l'idéal là, pour être vraiment là-bas. Là. Tu vois, les peaux de phoque, puis désolé Brigitte, mais les peaux de phoque, puis le morse, puis c'est vraiment ce qui protège le mieux parce que le vent ne rentre pas, c'est super protégé. Mais moins 60, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Là. Moins 35, moins 40, mettons, une ou deux fois, là, mais moins 60, ça brûle. Moi, j'enlève mes gants, prends mon appareil photo, ça brûlait, ça avait, la sensation de froid, ça n'existe même plus. Mon appareil photo a gelé.
Et eux, ils avaient la vie.
Ouais, mais eux autres, ils...
Moins lourd, en fait. Le froid.
Les Inuits, là-bas? Ah, eux autres, mais ils survivent depuis... Eux autres, c'est leur milieu de vie. Puis c'est impressionnant de voir que des gens ont réussi à survivre dans des conditions extrêmes comme ça. Là. Aujourd'hui, il y a des maisons sur pilotis là-bas. Parce que le sol est gelé assez pas mal toute l'année. Mais ils vivaient dans des igloos il n'y a pas si longtemps. Tu sais, les gens de mon âge, j'ai 40 ans. Puis quand je suis allé dans le Grand Nord, les gens de ma génération ont grandi, sont nés dans des igloos.
Ils vivaient tous ensemble, la famille vivait, les Inuits, pour se protéger de ce que vous dites que ça brûle, ils s'enduisent de la graisse de phoque. Et il y a une consommation de graisse qui est hyper importante pour pouvoir justement résister à cette dépense calorique du fait du froid.
Les peuples s'adaptent très bien, hein.
Bien sûr, et ils sont près de la nature de toute façon, ils sont en pleine... échangent avec leur milieu naturel, les animaux, la végétation, tout quoi, du peu qu'il y a, et voilà.
Ouais, ces peuples-là s'adaptent, ils ont développé, ils ont été ingénieux pour réussir à trouver des façons de s'en sortir. Là.
Et raconter un conte à moins 60.
Toi, tu as encore une question, Vincent?
Oui, j'ai encore une question. Qu'est-ce que c'est pour vous? Une bonne histoire.
Une bonne histoire, c'est une histoire parce que ouais, c'est une histoire qui parle aujourd'hui, qui dit quelque chose. Et le porteur de cette histoire-là, ça mérite une. Il faut bien. Je pense qu'il y a un choix d'histoire. Pourquoi on raconte surtout des contes traditionnels? Pourquoi on les porte aujourd'hui? C'est quoi les symboles, les codes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça résonne comment? Est-ce qu'on raconte juste ça parce que c'est une vieille histoire? Je pense pas de toute façon, parce que quand on l'a choisi, il y a quelque chose vraiment à l'intérieur qui vient nous parler. Mais identifier ce petit moteur-là qui fait que ça vibre. Le moteur, pour moi, c'est l'émotion au milieu de l'histoire. Pourquoi tu as envie de raconter cette histoire-là? Et quand on se pose la question, des fois, on trouve un cœur, puis il y a tout plein de petits vaisseaux après qui sont comme des fils à tirer pour que ça sorte, pour que l'histoire prenne de la densité. On peut lire un texte des fois, mais juste faire des sons avec notre bouche parce que c'est des mots. Puis on peut les faire résonner, ces mots-là. Quand on se rend compte de toute l'épaisseur et de la densité. Quand on se rend compte, on se rappelle du moteur de l'histoire. Les bonnes histoires, c'est des histoires qui sont portées par des conteurs qui ont bien identifié le moteur. Pourquoi est-ce qu'ils décident de la raconter? Ouais, quand c'est raconté par un conteur. Sinon, une bonne histoire, c'est... Ben, ça prend pour moi de l'action, ça prend de la quête. C'est l'action surtout. Une histoire, c'est de l'action. Il y a de la description, mais pas trop. On est dans un récit. Le conte, par exemple, c'est un récit court qui amène dans l'action, rapidement. C'est pas comme le roman où là, on s'étend. Fait qu'une histoire, c'est une histoire bien taillée.
Bien taillée.
Avec des drôles de personnages. Moi, j'aime les personnages un peu tordus, un peu étranges, à la Tim Burton, par exemple. Souvent, mes contes, mes univers tournent autour de personnages fantastiques. le trappeur de fond de ruelle, par exemple, qui attrape le chat de la mère Michel qui a perdu son chat. Qui crie à la fenêtre à qui il lui rendra.
Oui, mais la manière dont tu le dis, c'est tout de suite poétique. Tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y a une part de don aussi, non, dans le conte, dans cette capacité comme ça à embarquer un public dans une histoire, quelle qu'elle soit.
Ben, il y a quelque chose, ouais, que je pense que...
Tu as une bonne étoile quand même, non, au-dessus de la tête qui t'a...
Ben, je suis... C'est drôle, mais moi, je suis fasciné aussi par tous ces gens-là que je croise qui ont des talents fabuleux. Quelqu'un qui est capable de réparer une voiture, moi, ça me fascine, un mécanicien, là. Je m'impressionne plus de cette personne-là que de ce que je peux faire, moi, avec mes mots. Même si je sais que où je peux aller, où sont mes limites, mais quand je vois quelqu'un qui travaille de ses mains, quelqu'un qui est capable, un grand intellectuel, qui est capable d'organiser, de faire un essai, une grande analyse... Je trouve ça super beau. J'ai des amis qui sont brillants. Ben, ouais, j'ai comme... À un moment donné, c'est les gens qui te le disent aussi. Comme mon garçon qui dit « Est-ce que je suis un homme? » Moi, j'ai dit « Arrête, laisse les autres le dire que tu es un homme. » C'est pas toi qui vas le décider. C'est pas toi qui vas. Je pense que les gens, un jour, vont te... Puis à un moment donné, tu vas te dire « Ok, je suis rendu là. Je sais pas. Ça arrive de même. Ouais, un don, ouais, peut-être quelque chose qui tourne. »
Merci pour toutes vos questions. Merci. On peut applaudir pour toi.
Merci à vous, donc. Ça, là, c'est super bon. Hein?
Ouais, c'est bon, ça.
Il y en a qui ont lu?
Non.
Ravagliati. Ah ouais, c'est pas mal. Pour plonger dans le Québec, là, c'est facile à lire en plus, puis rapidement, on tombe. Mais mon gars, là, de 16 ans, là, il les a lus au complet, les Ravagliati. J'ai acheté ça, là, Paul, pour Noël, là, il y a 3 ans. Puis il est allé s'acheter avec son argent de poche toute la collection.
Toute la
il les a précieusement dans. Parce que ça aborde toutes les questions de l'adolescence dans certains livres aussi. Bien, toutes les questions, certaines en tout cas. Puis là où on passe, puis c'est les années 70, il y a quelque chose de vintage. Puis le Québec aussi, l'Expo universelle, c'est toutes ces années-là. Ça, c'est pas mal les pôles.
Mais vous avez embarqué des livres, hein, certains, l'autre jour, là. Les Léa Olivier, les bandes dessinées, tu connais La vie compliquée de Léa Olivier?
Oui.
Une adolescente qui se pose plein de questions sur son avenir.
Flavie, ma fille, elle est là-dedans aussi.
Qui s'est éloignée de son chum, elle est loin de son chum, de sa gang, c'est difficile, elle débarque à Montréal. Ça doit te parler ça aussi, parce que tu l'as pas dit, mais tu vis à Montréal, on peut le dire ça. Voilà, il vit à Montréal, hein, cette fameuse énorme ville qui brasse aussi pas mal de culture, hein, Montréal. Ouais. On en avait parlé aussi pendant les.
Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Oh, oh. Il y a de l'amour pour vous, mesdames. Il y a de l'amour pour vous toujours. Il y a de l'amour pour vous, mesdames. Il y a de l'amour. De la toujours.
Ah, tu vois, Sandrine, tu as rencontré notre conteur québécois.
Oui, tout à fait.
Donc, Sophie. Les ados ont travaillé sur plein de questions.
Oui, Sophie.
Alors, il y avait qui comme ado?
Alors, Axel, Talia, Charlène.
Je suis pas une ado, moi.
Ah, Charlène, tu as quel âge, Charlène?
J'ai avoir 13 ans.
13 ans, donc tu es pré-ado.
Pré-ado,
ouais,
mais
c'est
bon.
Différent.
Oui, c'est vrai.
Adolescence.
Nous avons Audrey, nous avons Lady,
Jade,
il y avait Jelaki tout à l'heure. Nous avons un jeune adulte
qui a fini son adolescence.
Pierre-Édouard.
Mmh. Mmh.
Alors moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Vous aviez posé quoi comme question à notre compteur?
Qu'avez-vous fait comme étude?
Ouais, alors il a fait quoi comme étude en fait? Il a fait des grosses études pour être compteur? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Il a fait quoi comme étude finalement?
Je vous demanderai. Eh bien, les mêmes métiers que Pierre-Édouard et moi ont fait. En fin de compte, il était...
Il a fait un métier d'animation.
Bah oui,
il était dans animateur dans les camps et tout.
Alors, c'était quoi les autres questions?
Je m'en regarde, mais...
pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Non, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait choisir ce métier?
Je sais plus. En faisant des camps, il racontait des histoires.
Ouais, il trouvait ça super bien. Il racontait des histoires. Il est jusqu'à
19h. Quoi d'autre? Depuis combien de temps faites-vous des comptes? Depuis 22 ans, il a dit.
Non, 21.
C'est pareil, 21.
Donc ça fait quand même... il avait quel âge? Il a 40 ans. Il avait 20 ans, quoi.
Ouais.
Ok.
Dans quelle salle avez-vous?
J'ai rien entendu.
C'est pas grave.
Dans quelle salle?
Avez-vous
le plus de spectateurs? Et c'était où, en fait?
C'était lors d'une tournée avec les orchestres symphoniques.
Oui, 80 orchestres.
Ouais. Bah, 80...
Et c'était dans quel pays?
Au Québec, je crois.
Au Québec,
ouais. Et ben, de devant 2500 ou 3000 personnes déjà.
Elle a rempli.
Alors.
Vas-y.
Ah ouais. Alors là, est-ce qu'on s'est déjà moqué de lui pour son accent?
Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Dans ces pépins, oh, savez-vous ce qu'il y a? Oh, oh. Il y a de l'amour, de l'amour pour vous, mesdames. Il y a de l'amour. De l'amour pour vous toujours, il y a de l'amour pour vous mesdames, il y a de l'amour.